Des averses sur le Massif central et sur les Alpes, quelques-unes aussi près de nos frontières du nord, beaucoup de nuages toujours jusqu'au centre. Et là où il devrait y avoir le plus de soleil demain après-midi, c'est en Bretagne.
Des maths, bonjour, Gaël est à la technique et Yves Averti est au micro pour le numéro 287 de Bretagne Zone Heureuse, le magazine de l'Agence culturelle bretonne de Loire-Atlantique. Le virus des sessions irlandaises est le titre de la soirée qui est proposée le mardi 14 mars à partir de 20h au Centre culturel breton Yézou à Sévenadur, 12 avenue de Langevinière à Saint-Herblain. Cette soirée vous permettra de découvrir en avant-première le film Tocan, musique irlandaise en Dordogne d'Éric Falraire-Poirou. La projection sera suivie d'une discussion avec le réalisateur et évidemment, il y aura aussi une véritable session avec l'atelier de musique irlandaise violon-danse, un atelier animé par Frédéric Boulet. Tous les musiciens sont bienvenus le 14 mars, c'est 3 jours avant la Saint-Patrick. Après une telle annonce publicitaire à mes auditeurs, vous ne serez pas surpris d'apprendre que nous recevons aujourd'hui Éric Falraire-Poirou. Bonjour Éric.
Bonjour.
Et aussi Frédéric Boulet.
Bonjour. Bonjour.
Et aussi quelqu'un d'autre en fait, parce qu'il va falloir faire un peu de session, c'est Gwen Kivigère. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous trois, donc pour parler de musique irlandaise et même en entendre enregistrer et aussi en jouer. Alors Éric, sur ton site internet, tu te présentes ainsi. Je suis né en 1964 à Nantes, en Bretagne, et l'Irlande est mon pays d'adoption depuis plus de 30 ans. J'ai rédigé ma thèse de doctorat en 1996 sur l'identité musicale irlandaise et j'ai traduit ou publié plusieurs ouvrages sur ce pays. J'ai également publié un ouvrage sur les Beatles, en grande partie grâce à ces deux passions. Je suis maître de conférences en anglais depuis 1997 et directeur du département de langue à l'école polytechnique de l'Université de Nantes depuis 2005. Alors, après cet autoportrait, une question. C'est la langue anglaise qui t'a fait connaître l'Irlande ou c'est connaître l'Irlande qui t'a encouragé à apprendre l'anglais ?
C'est une bonne question, ça. Tu veux la réponse courte ou la réponse longue ?
Tu fais comme tu veux. Tu es libre.
La langue anglaise, je ne sais pas. Ça doit être parce que je suis bavard, donc attention, méfiance. Et puis, quand j'ai fait quelques petits séjours en tant que collégien en Angleterre, ben, forcément, il fallait que ça sorte. Et puis, à partir de 13 ans, j'ai découvert les Beatles. Ça a été un premier choc musical. J'avais la chance d'avoir des parents qui écoutaient énormément de choses, du folk beaucoup, avec des origines très diverses. Mon père était navigateur, donc il ramenait plein de trucs. Et voilà, à 18 ans, après le bac, je me suis dit, bah, faut que j'aille passer les vacances quelque part. Je suis parti en stop. J'ai prévu de faire l'Irlande et la Grande-Bretagne. J'avais prévu 15 jours en Irlande, 15 jours en Grande-Bretagne. Et au final, j'ai passé 26 jours en Irlande et 3 jours en Grande-Bretagne. Et je savais, le deuxième jour, je me rappelle, je savais que je reviendrais. Donc voilà, tout ça, ça s'est mélangé. J'ai fait des études d'anglais à Nantes. Et puis, je sais pas, j'avais envie de faire... quand j'étais jeune étudiant, j'avais envie de faire une thèse sur les Beatles, mais ça a déjà été fait. Donc j'ai fait une thèse sur la musique irlandaise qui n'avait pas été faite encore en France.
Et qui s'appelle « Musique irlandaise et identité ».
Ouais, c'est ça, ouais. En fait, bon, je suis devenu prof d'anglais hein, en collège et puis en lycée ensuite. Et j'ai repris des études quelques années plus tard et je me suis aperçu qu'il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été faites sur la question de l'identité. Bon, c'est une question très vaste, très intéressante. Et pour ce qui concerne l'Irlande, beaucoup de choses qui avaient été faites sur identité et littérature, évidemment, identité théâtre, identité et langue, voilà, identité sport, identité et plein de choses, mais et pas identité.
Il n'y avait pas la musique.
Non, non, non. Et je suis toujours le seul à avoir fait un doctorat sur la musique irlandaise, en France en tout cas. Évidemment, en Irlande, il y en a beaucoup, mais en France, je suis toujours le seul, ce qui est un peu étonnant.
Donc, nous, ça ne nous étonne pas, puisque c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Ta vie, c'est l'Irlande ou même la musique irlandaise, on va dire.
Oui, c'est une grosse partie, oui. Ouais.
Et, que, donc, mais... et tu voyages pour ça, et un jour tu as découvert une commune du Périgord, que moi qui suis allé au Périgord, j'ai aucun souvenir de ce nom, qui s'appelle Tocan, et il y a de la musique irlandaise, c'est bizarre.
Oui, absolument. Ouais. Donc, en fait, c'est un festival que je connais depuis très très longtemps, dont j'ai entendu parler depuis très très longtemps, que tous les amateurs de musique irlandaise connaissent très bien, parce que c'est le premier, en 91, qui s'est lancé vraiment dans un truc un petit peu sérieux, solide. Alors, c'est pas vraiment un festival, en fait. Eux n'aiment pas dire festival. C'est des rencontres, hein, des rencontres avec des cours d'instruments. Et alors, voilà, dans mon approche à moi, la musique irlandaise ne pouvait être vraiment bien qu'en Irlande. Voilà, donc en fait, c'est le point de départ de mon documentaire. Et en gros, ben, je me suis trompé. Il y a une vraie vie, il y a quelque chose qui se passe là-bas, parce que c'est un petit village, parce que les Irlandais viennent avec plaisir et parce que les profs changent tous les ans, mais que ceux qui sont venus les années précédentes reviennent. Il y a des gens qui reviennent tous les ans. Pour donner un exemple très concret, si vous voulez réserver au camping, dans les mobile homes, ils sont pris d'une année sur l'autre par des Irlandais, par des familles d'Irlandais qui viennent là depuis des années et des années et qui réservent tout un bloc. C'est le ghetto irlandais.
Donc, mais ils cherchent la chaleur du weather ou ils cherchent de la chaleur des habitants?
Ben, c'est un peu tout ça. Donc ça, c'est un petit peu le cœur du documentaire. C'est le fait que il y a de la bonne musique. C'est des rencontres. Donc on rencontre plein de gens qui sont passionnés. Et puis, en plus, il y a, comme ils disent, il fait beau, il y a de la bonne nourriture.
J'ai oublié ce détail pour le Périgord.
Bah oui, un petit peu, ouais.
Donc, on va parler de ces rencontres. On va aussi écouter de la musique irlandaise. Et la première qu'on va entendre, c'est un disque que tu as sorti il y a déjà pas mal d'années. C'était en lien avec ta thèse.
Oui, c'est ça. Alors, en fait, j'ai soutenu ma thèse en 96. Et puis, je m'étais dit, ça serait bien que je puisse illustrer ça par des extraits musicaux. J'étais allé en Irlande, j'avais emprunté le salon d'un copain et j'avais simplement dit aux gens que je connaissais, venez, passez dans la journée, n'importe quand, pendant 3 jours, micro ouvert, j'enregistre, etc. Et au départ, c'était juste des illustrations pour ma thèse. Donc il y a plein de gens qui venaient après avoir emmené les enfants à l'école, après avoir trait les vaches, etc. En permanence, ça tournait. Donc j'ai fait des enregistrements de solo et de duo. Et puis j'ai proposé ça à Cobraise, qui a trouvé ça intéressant, l'a sorti. Et puis il a même eu le Diapason d'or du magazine Diapason à l'époque. Donc apparemment, il y a des gens qui ont trouvé ça bien. Quoi.
Et c'est le seul disque que tu es sorti ?
Oui, oui, mais moi c'est du collectage, je ne joue pas dessus.
T'as pas envie de continuer ?
Si, mais en fait j'avais d'autres envies, et puis c'est pour ça que je me suis lancé dans le documentaire.
Alors t'as choisi le numéro 1 du disque, c'est parce que c'était plus facile de dire numéro 1 ou...
Non, parce que c'est un de mes morceaux préférés, en fait c'est Tom et Tim qui jouent et qui ne se sont pas vus depuis, ce jour-là ils ne s'étaient pas vus depuis 20 ans, et tout d'un coup ils se sont dit tiens on va se retrouver pour cette occasion, et ils ont fait un bon petit morceau.
Eric Falrère-Poirou a un jour collecté des morceaux. C'est devenu le disque qu'on vient d'entendre. Et c'est Eric qui va désannoncer lui-même le titre qu'on vient d'entendre, parce que des fois, je n'arrive pas à prononcer les mots.
Alors, le premier titre, c'était The Leg of the Duck, et le deuxième, c'était The Stick Across the Hob, qui est plus connu sous le nom de Morrison's Jig.
Ah ouais,
voilà,
ah, d'accord.
Du nom du fiddler Sligo. Voilà.
Donc tu as collecté de la musique, et mais tu as continué très fort puisque tu viens de collecter des images.
Ouais.
Tu as décidé, parce qu'on parlait de Tocane dans le Périgord, on dit c'est super, ils se rencontrent. Tu as trouvé ça tellement super que tu as décidé d'en faire un film.
Ben en fait, ça fait très longtemps que je me dis que quand même les enregistrements c'est bien, mais pouvoir passer à l'image c'est super intéressant, d'autant plus que moi, dans mon métier, l'idée, c'est quand même de transmettre pas seulement une passion, mais aussi des connaissances, des problématiques, des réflexions, etc. Mais le matériel, jusque-là, c'était un petit peu compliqué, c'était un petit peu cher. Et puis, mais ça faisait très très longtemps que je voulais faire un documentaire sur la musique irlandaise. J'ai essayé, j'ai jamais réussi. Et puis, c'est vrai qu'au bout du compte, on se rend compte qu'il faut raconter une histoire. Maintenant, si on veut faire un documentaire qui passe quelque part, il faut raconter une histoire. Et moi, la seule chose que j'avais envie de faire, c'était poser un panorama de l'histoire de la musique irlandaise. Et un jour, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer autrement. Et j'ai emprunté au boulot, donc je suis prof à l'école Polytech, là, l'école d'ingénieurs de l'Université de Nantes. Et en discutant avec le collègue du département multimédia, je lui ai dit, bah, tiens, est-ce que tu pourrais me prêter une caméra? Il m'a prêté une mini... Mais les caméras d'aujourd'hui, les Full HD, ça vaut rien du tout. C'est tout petit, c'est pas plus gros que les caméras grand public, quoi. Il m'a prêté deux micros sans fil. Je suis parti avec. Et j'ai fait plein d'interviews comme ça pour m'amuser. Et puis après, j'ai mis ça de côté. L'année d'après, j'ai recommencé, donc deux étés de suite. Et puis après le deuxième, je me suis dit, il faudrait peut-être que je fasse quand même quelque chose avec. Et j'ai commencé à monter, à bidouiller ça, pour voir comment... pour apprendre, en fait. Hein. Parce que c'est vrai que l'une des premières questions qu'on m'a posées, c'est pourquoi tu as fait ça? C'est à quoi ça sert? Comme si tout devait servir à quelque chose, mais bref. Et donc... Ben, c'était pour apprendre à faire. Donc voilà, j'ai appris, j'ai fait un documentaire. Je l'ai montré un peu à droite à gauche. Je me suis fait aider parce qu'il faut quand même que j'insiste sur le fait qu'au départ, j'étais super content de moi. J'ai montré ça à mon collègue du service multimédia, puis un copain nantais qui est monteur, qui fait les Racines et des Ailes, d'ailleurs, Christophe Delestre, que je remercie très fort, et puis Olivier Rétif, que je remercie également, et qui m'ont dit « ton truc, c'est nul ».
Ah.
Moi, j'étais très content. Et non, c'était pas nul, mais en fait, il n'y avait pas d'ambiance, il n'y avait pas de machin, il n'y avait pas de truc. Donc j'ai tout refait le montage, j'ai repris au début.
Tu avais tous les éléments qu'il fallait.
Ouais. J'ai reposé une ambiance. Le point de départ, c'est quand même que je sais à peu près filmer, je sais cadrer une image, et j'ai une petite formation d'ingénieur du son. Donc ça, le point de départ, c'est que j'avais des bonnes images.
Tu es aussi modeste, visiblement. Non, parce que en fait, il y a toujours un point de départ. On n'arrive pas comme ça. Et aussi réussir, parce qu'on va raconter après ce que devient le film. Mais
ah
donc,
oui.
Tu as quand même réussi à faire un film qui accroche même des Irlandais.
Oui, absolument. Oui, tout à fait. Oui. Donc, bref, j'avais des images, j'avais du son. J'ai fait un truc, je l'ai monté, je l'ai montré. On m'a dit, on peut faire mieux, j'ai fait mieux. Et puis j'ai réussi à en faire 26 minutes, mais c'était vraiment pour apprendre à le faire.
Donc ce sera présenté au public, on va en parler dans quelques instants, dans quelles circonstances.
Oui, parce que c'est vrai qu'on est quand même là pour donner envie aux gens de venir quand même.
Mais pour leur donner envie et pour leur dire l'intérêt sans doute qu'il y a à ce film, c'est que tu sais déjà qu'il va être programmé à la télé irlandaise, donc ça c'est un grand succès.
Alors c'est en cours de négociation parce que en fait je l'ai envoyé effectivement à plein de gens, dont la télévision irlandaise. Il se trouve que la responsable, donc c'est TG4, hein, la télévision gaélique, était très intéressée, m'a recontacté. Après, bon, il y a des questions techniques et administratives qui sont plus compliquées. C'est-à-dire que le cahier des charges de TG4, c'est le même que celui de la BBC. Donc je ne vous raconte pas le format 4:4:2 en MPX, en Full HD, etc., etc., etc. C'est un peu compliqué. Et puis après, il y a les questions administratives d'avoir une signature de tous les gens qui sont dans le documentaire pour m'autoriser à le diffuser. Donc on en est là pour l'instant. J'ai bon espoir, mais voilà.
Bon ben...
Mais en tout cas, c'est vrai que l'intérêt, c'est que ça prouve qu'il y a des Irlandais qui s'y sont intéressés, qui ont trouvé que c'était bien fait et que les images étaient correctes, que ça passe, quoi. C'est... Voilà.
Bon bah c'est super, et donc on va pouvoir s'en rendre compte, oui, refaisons un peu de publicité comme je disais au début de l'émission, c'est mardi prochain, donc c'est le mardi 14 mars, c'est 12 avenue de Langevinière à Saint-Herblain au centre culturel breton Yézou à Sévenadur, et c'est même la deuxième fois que va se passer une soirée qui s'appelle les mardis de Langevinière. Et Goulouzo est le titre en breton, ça veut dire il y a de la lumière, donc c'est plein d'espoir, et donc ça a lieu là parce que toute l'année, il y a un atelier de musique irlandaise qui se retrouve pour jouer, répéter, s'amuser même ensemble, et qui se montre quelquefois en public, notamment à toutes ces soirées irlandaises organisées par le Centre culturel breton Yézou à Sévenadur. Et cet atelier qui s'appelle Violon Danse est animé par un violoniste qui s'appelle Frédéric Boulet. Donc Frédéric, j'ai déjà dit bonjour tout à l'heure. Donc ça veut dire que l'atelier continue depuis plusieurs années.
Oui, j'avais démarré la formule sur Redon du temps où j'enseignais à l'école de musique traditionnelle de Redon. Puis lorsque j'ai cessé d'aller à Redon, j'ai ouvert ça à Saint-Herblain parce que autour de moi, il y avait une demande de musiciens amateurs qui avaient un petit niveau d'instrument, qui n'osaient pas aller jouer en session malgré que ça pouvait les démanger. Et ils avaient besoin d'abord de se faire un petit répertoire collectif et puis d'apprendre les codes de la session. Donc c'est ce qu'on fait en atelier.
Ah, c'est quoi les codes de la session ?
Les codes de la session.
Ah,
l'écoute mutuelle.
Complète sur cette question, il y a eu des thèses entières à rédiger là-dessus.
Bon, résumons, c'est il y a un code. Déjà, faut se retrouver dans un lieu, plutôt un lieu public avec d'autres gens, à un lieu où il y a des bières à portée de main. C'est ça un des codes ?
Oui, je ne sais pas si on peut appeler ça un code, mais effectivement, pendant nos séances de répétition, nous, on a des bières.
Bon. Ah, voilà.
C'est un lieu de transmission.
On se met autour d'une table, en cercle, de manière à bien s'entendre tous les uns les autres, pour que rythmiquement, il n'y ait pas de décalage. Voilà. Et oui, c'est un lieu de transmission, donc on joue les airs qu'on connaît, et si on ne connaît pas, on écoute, et il n'y a pas de honte à ne pas jouer. Il ne s'agit pas de jouer à tout prix, quitte à gâcher la musicalité du propos. Et c'est à force d'écoute et de participation qu'on engrange du répertoire et qu'on améliore son style. C'est plus facile de progresser à plusieurs que tout seul dans son coin. Mais en atelier, y a aussi des temps d'échanges verbaux. Hein, donc,
Et c'est tous les instruments. Toi, tu joues du violon, donc
oui,
tu
c'est
diriges,
un multi-instrument,
parce que tu es musicien professionnel.
Les violonistes sont majoritaires, d'abord parce que j'en ai dans mon réseau, et puis aussi parce que peut-être que c'est un instrument qui est quand même largement enseigné, plus que le Highland Pipes, par exemple. Mais c'est ouvert à tous les instruments. Le souci, c'est juste pour certains instruments type clarinette, qui sont des instruments transpositeurs, qui jouent en si bémol, on a des petits problèmes de compatibilité des tonalités utilisées. Mais il y a moyen.
Alors là, on parle de musique, mais on va en entendre. Et de la musique en live. Alors, c'est pas vraiment une session. On est en cercle tous les quatre, mais il y a que deux qui vont jouer. Donc toi, Frédéric, et puis Gwen Kivigère. Toi, tu vas prendre ton accordéon. Kivigère, Boulet, c'est un duo qui fait normalement de la musique bretonne, mais vous avez l'air de jouer ensemble de la musique irlandaise sans problème. Gwen, tu es habitué aussi à jouer d'autres musiques que de la musique bretonne.
En fait, j'avais un quintet sur lequel on jouait ensemble, où c'était à moitié de la musique irlandaise et à moitié de la musique bretonne. Ça fait longtemps que je joue aussi de la musique irlandaise, pour avoir vécu en Irlande pendant un certain temps.
Ah oui, parce que Frédéric aussi a vécu en Irlande. Je suis seul à ne pas avoir vécu en Irlande. Et si, je me sens bizarre.
Je suis allé à Toucanes, à des époques différentes.
Ah oui, d'accord.
Et donc en plus, ça aurait pu.
Je m'excuse, je ne suis même jamais allé en Irlande. Mais je sens qu'il faut que j'y aille rapidement, là, parce que
l'appel se fait. Là, effectivement, je ne sais pas si c'est pardonnable, ça.
je sais que c'est pas très loin, qu'il y a des bateaux, des avions, enfin que tout est possible.
Oui, c'est pas très cher en plus, c'est pas très cher.
Donc vous allez vous installer. Quand vous commencez à jouer comme ça, vous savez ce que vous allez jouer ou...
Non, on en a parlé en venant là. On se disait que commencer par un hornpipe, ça peut être sympa.
Je vous empêcherai
pas. Parce qu'en général, on écoute beaucoup de jigs et de reels, qui sont des rythmes rapides. Les hornpipes, un peu moins. Donc voilà, on a pensé à ça. Puis on enchaînera quand même sur du reel après. On a le temps de... On peut se... 3 minutes, ça va ?
Aucun problème.
Et ensuite... C'est parti.
Ça se fait d'applaudir en session, il n'y a pas de problème.
Oui, ça
peut se faire, ouais. Mais en même temps, ça implique une distanciation du public pas nécessaire.
Donc, ah oui, d'accord.
Quand on parle de code, il y a beaucoup de code.
Mais il peut y avoir du public en session, tout le monde n'est pas obligé de jouer.
Ah oui, absolument. Oui.
Mais le public n'est pas censé.
Je fais l'imbécile là, en fait.
N'est pas censé être dans une écoute religieuse. Non, c'est pas un concert.
Tout le monde peut être public, tout le monde peut être participatif. C'est ça le truc, quoi.
Et quelqu'un du public peut dire tiens, j'ai une chanson, je veux bien.
Oui, voilà.
Participer le temps d'une chanson.
C'est pas un concert.
Oui. Est-ce que c'est seulement une impression de penser qu'il y a de plus en plus de sessions? Par exemple, à Nantes.
Non, plus de pub irlandais.
Pub irlandais, c'est sûr, on se demande, c'est bizarre.
Il y a des hauts débats, mais il y a une mouvance de pratiquants suffisamment importante pour que ça se multiplie au gré des disponibilités des uns des autres, mais... et des lieux, oui.
Donc la soirée du 14 mars, c'est tout près du 17, et j'espère à mes auditeurs que vous savez que le 17 mars se fête tous les ans la Saint-Patrick, donc la fête de l'Irlande dont on ne parlera pas trop aujourd'hui. Mais est-ce que la Saint-Patrick quand même a propagé l'idée de musique irlandaise dans le monde ?
Oui et non. Je pense que la Saint-Patrick a beaucoup propagé la réputation des Irlandais d'être des buveurs.
Et ce qui n'est pas nécessairement une bonne réputation chose. Des bières irlandaises aussi.
Oui, aussi, ouais. Mais bon, c'est quand même si c'est une fête qui a été décidée en Irlande, ça a été surtout propagé aux États-Unis. Il me semble que ce qui a vraiment beaucoup propagé la musique irlandaise, c'est d'abord les années 70, ensuite le renouveau des années 90, Riverdance, des choses comme ça, des moments un peu particuliers, ces grandes troupes qui se baladent un peu partout. Et puis, la mode des pubs irlandais, quoi. Il me semble qu'il y a vraiment une mode. Je ne sais pas si c'est une mode qui va passer, mais il y a un courant. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire que c'est un courant commercial dans le sens où si vous allez sur Internet et que vous cherchez un Irish Pubs et que vous voulez monter un pub irlandais, il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans et qui vous font des pubs irlandais clés en main. Tout compris, avec tout le kit, ouais. Plusieurs niveaux de prix, hein, avec le décor, il y a plusieurs niveaux de prix, mais donc ce sont des boîtes qui collectionnent en Irlande, dans les vides-greniers, etc., des vieux machins, et qui ensuite sont transférés n'importe où dans le monde pour faire un faux pub irlandais. C'est une niche commerciale, quoi, hein, qui marche bien, là, actuellement, donc depuis une bonne dizaine d'années.
Moi, je me demande aussi si l'augmentation des sessions vient pas aussi du fait que il y a depuis pas mal d'années une urbanisation, la disparition du monde rural, et que les pubs irlandais se trouvent en milieu urbain, et du coup c'est facile, qui se développent partout dans le monde, finalement. Partout dans le monde il y a des villes, et donc les pubs peuvent s'installer et être des lieux de rassemblement de musiciens.
On a l'impression, oui, puis aussi d'être plus près des gens. On dit un pub, ce sera convivial, on sera mieux là.
Ouais, c'est ça, parce que les Irlandais ont cette réputation d'être des gens conviviaux, etc., bon enfant. Je crois que c'est le grand flûtiste irlandais James Galway qui disait « Les gens croient que les Britanniques ont conquis la planète », mais en fait, pas du tout vrai. C'est les Irlandais avec leur musique, avec leur bonne humeur, avec leurs chansons. Voilà, il y a cette bonne réputation, et puis ça marche.
J'ajouterais que les meilleures sessions en Bretagne ou en France n'ont pas forcément lieu dans des pubs irlandais. Il y a justement des musiciens qui fuient les lieux trop commerciaux, et parfois c'est dans un bistrot de quartier le plus franchouillard ou rural possible que l'ambiance va être celle qu'on aime.
Ou alors au centre culturel breton Yézou à Sévenadur, 12 avenue de l'Angevinière, mardi prochain, le 14 mars, on pourra continuer cette conversation, oui. Parce que le film sera présenté, il y aura de la musique avant, de la musique après, et on pourra discuter, et surtout Eric répondra aux questions des gens présents. Donc on voit qu'on peut discuter longtemps. Je dis, on peut tellement discuter longtemps qu'on va même pas passer tous les disques qu'on avait prévu de passer aujourd'hui. C'est incroyable. Faudra que tu reviennes. Mais donc je propose que on ne va pas passer le groupe Skippers Alley, qui est un groupe de jeunes. On va écouter des vieux. Et c'est Lalou. Alors ça s'écrit Lalug, hein, je vous préviens. Mais c'est Lalou. J'ai appris ça il y a quelques minutes seulement. Et qu'est-ce que c'est que ce groupe ?
C'est un groupe qui est constitué de Jerry O'Connor et de Etna Ullacon, qui sont les premiers musiciens à être venus au festival de Tocane. Donc ils sont intimement associés à ce festival. Et Jerry O'Connor existe toujours, mais malheureusement Etna Ullacon est décédé. Et ils avaient ce groupe, Lalou, qui a cette espèce de magie absolue, je trouve.
Bon, ben on écoute la magie pour se quitter à mes auditeurs. À bientôt. Kenavo.
Kenavo.
meshkara James Nismo Bren lanaga Johnny Velasime O hail mama halin bagok a haru ma fokam tarigit Is father long wormy wormy Is father long wormy o Jimmy she Is father long he saga sursi Maria wandi fernan Talk ima chakrinar Spay keraba bana barakakam Halikma ninyadagor Got jockey ma wandi